SciTech, épisode 3, bonjour à tous, salut Danae.
Hello Nico.
Alors, épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va vous parler d'un tout nouveau master de la HEH, un master qui permet d'acquérir le titre d'ingénieur en technologie des données du vivant. Cheville ouvrière de la mise sur pied de ce master, on reçoit Aline Léonet, qui en est la coordinatrice. Bonjour Aline.
Bonjour Nico, bonjour Danae.
Question traditionnelle, Aline, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous résumer en quelques mots ce qu'est donc le master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation technologie des données du vivant?
Alors on va faire plus simple, technologie des données du vivant, c'est très long, c'est compliqué, donc on peut parler de Live Data Technologies, donc on va résumer en LDT le titre de cette formation. Alors c'est une formation qui va utiliser toutes les compétences de l'informatique au service de la biologie, du domaine du vivant.
Danae est toujours aux commandes de notre sampler, ce qui va nous permettre de te faire réagir à des témoignages d'étudiants.
Oui, tout à fait. Alors, on va commencer avec Benjamin qui nous explique l'intérêt d'avoir entamé ce master après avoir obtenu son bachelier en biotechnique.
On pourra dire que je suis un ingénieur. Donc, si je suis ingénieur, ça veut dire que je dois être capable de faire beaucoup de choses finalement. Et avec le LDT, je vais pouvoir être à des postes à plus haute responsabilité. Je me suis dit que le fait d'avoir plus de bagages et pouvoir apprendre davantage sur tout ce qui était la bioinformatique et pouvoir pousser, avoir plus de langage de programmation ou tout simplement plus de biologie, finalement, me permettrait de trouver un travail beaucoup plus facilement.
Alors pour qu'on comprenne bien, Alina, est-ce que tu peux nous expliquer comment on accède en fait au master LDT?
Alors deux possibilités, la voie classique, s'inscrire en première année d'études d'ingénieur après sa réto et faire les 5 années pour obtenir ce titre d'ingénieur. Autre possibilité, c'est celle que Benjamin a suivie, c'était faire 3 années de bachelier dit professionnalisant en biotechnologie ici, pour ensuite accéder à la Master 0, donc c'est-à-dire l'année de remise à niveau d'ingénieur, pour accéder au Master de LDT. Alors ici, Benjamin vient du bachelier en biotechnique qu'on fait ici à la HEH, mais c'est pas le seul bachelier qui permet d'accéder au master. On peut faire l'informatique, on peut venir de l'agro, on peut venir de la chimie, on peut venir d'un bachelier en environnement. En fait, tous ces bacheliers où il y a soit la connotation biologie, domaine du vivant, ou tous ces bacheliers qui viennent de l'informatique, on peut alors embrayer par le master en LDT.
Alors ce qu'on a demandé aussi à Benjamin, c'est si un cours en particulier l'avait marqué, et voilà ce qu'il nous dit.
Le cours de phylogénèse qui consiste à faire un arbre phylogénétique, en fait c'est faire un arbre où on va pouvoir relier les espèces entre elles, mais non pas par leurs caractéristiques physiques comme on faisait avant, mais bien par tout ce qui est ADN. Et on va vite se rendre compte que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça, parce que l'exemple le plus frappant, c'est que la taupe d'Afrique va être beaucoup plus proche de l'éléphant d'Afrique que l'éléphant d'Asie. Et on voit clairement que l'informatique devient de plus en plus important au niveau de la biologie.
Alors Benjamin évoque la phylogenèse. Tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qu'on retrouve comme grands axes, comme grands cours au sein de ce master en Live Data Technologies.
Donc il va y avoir dans ce cursus tous les cours d'informatique nécessaires, toute la biologie nécessaire pour pouvoir aider tout le domaine du vivant. Alors, tous les cours d'informatique programmation pour justement développer des outils qui vont permettre aux biologistes d'analyser leurs données qui sont devenues hyper abondantes. Pourquoi ? Parce que l'heure actuelle, on est dans les technologies du séquençage et donc c'est comme ça qu'on étudie l'ADN des espèces et on se rend compte que certaines espèces, par exemple, je vais prendre un exemple précis, des méduses ont une capacité d'immortalité, c'est-à-dire qu'elles ne vieillissent jamais. Quand elles ont fini leur reproduction, elles redeviennent des juvéniles. Et donc, on étudie ces bestioles pour comprendre quels gènes elles ont. Et grâce à ça, on peut faire avancer la science. Et donc, le biotechnicien va développer tous les outils pour pouvoir aller cibler et identifier les gènes d'intérêt comme ces méduses pourraient avoir.
Alors on va poursuivre avec Gatien, il évoque cette fois l'importance actuelle des technologies du vivant.
Je pense que c'est un métier d'avenir. On peut s'en rendre compte avec la crise actuelle du coronavirus, c'est qu'on n'a pas assez de personnes capables d'analyser les données, ou en tout cas d'analyser les grandes quantités de données, et pouvoir faire le lien entre les données qui sont retenues de manière informatique et les données biologiques sur le terrain. Il n'y a pas actuellement assez de monde pour faire ce genre de lien.
On l'entend évidemment bien dans le témoignage ici, et on s'en doute évidemment avec tout ce qui se passe actuellement. Les biotechnologies, les technologies des données du vivant n'ont peut-être jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui.
Effectivement, c'est une actualité qui nous touche vraiment cette année. Alors, pour réaliser un vaccin en si peu de temps, pour comprendre comment fonctionne un virus, il a fallu séquencer son ADN. Mais pour pouvoir lire une séquence d'ADN, il faut des bioinformaticiens. Et donc, c'est là qu'ils interviennent. Pouvoir lire et interpréter ce qu'il y a dans cet ADN, c'est une compétence que nos étudiants ont en sortant d'ici. Et c'est le métier d'avenir de demain. Si on prend un exemple concret, une personne qui souffre d'un cancer subit une opération, une chimio, des radiothérapies, toujours le même ordre parce qu'il y a des canevas faits, des procédures toutes faites. On se rend compte en fait que chaque patient est unique. Chaque patient a une manière de réagir au traitement qui lui est propre. Et donc, c'est le travail du bioinformaticien d'aller chercher, d'aller étudier les caractéristiques ADN moléculaires de chaque patient pour pouvoir justement adapter le traitement. Un patient avec certaines tumeurs qui, il y a quelques années, aurait eu une chimio, ne l'a plus aujourd'hui et a autant de chances de survie que celui qui aurait eu de la chimio. Donc, c'est l'avenir dans tous les domaines.
Finalement, il y a presque un côté futur, super-héros, tout ça, quand on connaît la situation actuelle. On a fait réagir Gatien, cette expression.
J'irais pas jusqu'à dire qu'on est des super-héros. Mais en vrai, on pourrait être un atout qui n'est pas encore présent actuellement pour ce genre de crise.
Des futurs super-héros, Aline ?
Oui, des vrais super-héros. Bah, j'adore ça. Je trouve que c'est l'avenir de la science, c'est l'avenir de la médecine, c'est l'avenir de la pharmacologie. Et donc, je pense que vraiment, il y a un peu de super-héros dans leur formation.
Alors, on écoute maintenant un petit extrait de l'interview d'Antoine qui, lui, évoque des exemples concrets d'application de cette spécialisation.
Alors, la recherche, on va dire, c'est très vaste pour nous parce que, de base, avec notre formation de bioinformaticien, on est un petit peu une clé à molette et on fait le lien entre le biologiste et l'informaticien. On peut avoir plein de niveaux de recherche, on peut aller en recherche pharmaceutique et essayer de voir les interactions qu'on pourrait avoir avec les médicaments, voir la cascade médicamenteuse, le métabolisme, comment le médicament va être ingéré, comme on pourrait avoir des recherches comme le secteur de la métagénomique, qui en fait, lui, s'intéresse au patrimoine génétique d'un ensemble d'individus et voir leur interaction au sein de la population. Et il y a vraiment plein de champs de recherche qu'on pourrait exploiter. On pourrait essayer de recréer un moteur de recherche comme Google, par exemple, mais vraiment propre aux séquences biologiques.
Alors, Antoine utilise l'expression « clé à molette ». On pourrait presque dire, à mon avis, « couteau suisse ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait ?
J'adore son expression. C'est génial, l'idée de se comparer à un couteau suisse, parce que c'est vraiment le devenir de l'ingénieur, c'est d'être polyvalent. Les ingénieurs qu'on va former en LDT sont des interfaces, clairement, comme il l'indique, entre l'informaticien et le biologiste, mais aussi ont la capacité de comprendre toutes les technologies qui se cachent dans les analyses biologiques. Et pas que la partie informatique, toute la partie électronique qui se cache derrière. Et donc, c'est vraiment le couteau suisse qui va être capable d'aider au développement de nouvelles technologies pour améliorer la science, mais également d'interpréter toutes ces données. Et c'est vraiment le couteau suisse.
On écoute encore Antoine qui, cette fois, nous explique des projets qu'il aimerait développer.
Je voudrais faire de la vulgarisation qui me permettrait, par exemple, de faire, comme la HH l'a déjà fait, un serious game, donc un jeu qui permettrait d'apprendre des choses, des vraies choses à un enfant, lui apprendre à gérer de la logique, lui faire découvrir le monde marin, comprendre pourquoi... Quelle serait l'importance d'un masque dans le coronavirus, par exemple, en lui montrant justement la contamination ?
Là aussi, hein, Aline, on se rend compte à quel point les domaines d'application sont infinis. Ça va de la vulgarisation, comme il le dit, pour enfants, au traitement de big data, et on sait que c'est l'avenir, pour gérer une épidémie.
Alors ici, j'aime bien sa comparaison avec un serious game, parce que je pense qu'ils sortent d'un projet qui vient d'être mené ici au deuxième quadrimestre, dans le cours de programmation où ils ont dû créer un jeu vidéo. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt de savoir vulgariser la science et savoir la communiquer vers autrui.
Un petit son d'Antoine désormais. Il y évoque les débouchés potentiels à la fin de sa formation.
On en a qui travaillent dans des entreprises qui regardent pour avoir une culture de pommes de terre plus abondante. On en a d'autres qui travaillent ici dans des laboratoires universitaires en Suède. et qui sont même doctorants maintenant. En fait, le panel de possibilités est vraiment énorme.
En rencontrant Antoine et les autres étudiants avec Danae, on a vraiment eu cette impression d'un nombre de possibilités de débouchés assez incroyables qui pouvaient exister. Le nombre de secteurs et le type d'entreprise est vraiment infini.
Oui, il ne faut pas penser uniquement médecine et santé. Ici, par exemple, nous avons un partenaire, une société qui travaille dans l'agroalimentaire, notamment la boulangerie. Ils utilisent des bioinformaticiens parce qu'en boulangerie, on utilise des organismes vivants pour développer des procédés de fabrication du pain. Et dans ça, on étudie les protéines, les gènes qui permettent d'exprimer la montée du pain ou la brillance du glaçage. Et donc, clairement, le bioinformaticien va pouvoir intervenir dans des domaines aussi vastes.
On écoute maintenant Benjamin qui nous parle de la relation prof-étudiant.
On a des relations avec les professeurs qu'on ne pourrait pas avoir du côté universitaire. On rigole bien avec eux et si on a une question, ils sont toujours prêts à nous répondre et ça aide énormément de pouvoir plus discuter avec un professeur comme un collègue. Ici, vraiment, on sent comme une grande famille et du coup, ça aide au niveau des études.
Une proximité d'autant plus grande, Aline, que vous travaillez par petits groupes et qu'il y a vraiment de l'accompagnement fort individualisé.
Oui, et puis la biologie moléculaire, elle s'apprend en classe dans un cours ex cathedra, mais elle s'apprend aussi en laboratoire. La bioinformatique, il y a bien sûr de la théorie, mais ça s'apprend par des projets. Et donc, quand on fait des labos, des projets, on connaît nos étudiants, on doit les accompagner, on les découvre autrement, une relation de confiance s'établit entre eux et nous.
Autre aspect qui caractérise bien la section, c'est la méthodologie d'apprentissage, et elle est maintenant évoquée par Antoine.
En quelque sorte, à la HEH, on n'est pas dans une sorte d'entreprise de création de savoir. On n'est pas vraiment un étudiant qui est placé sur une chaise parmi une centaine d'autres étudiants identifiés par un numéro. On a presque des cours particuliers. Ici, on peut poser la question de pourquoi, de comment, et de comprendre justement le lien avec toutes les connaissances.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les mots sont forts. Aline, presque des cours particuliers. C'est un avantage déterminant pour un étudiant, j'imagine.
Comme les groupes sont petits, on les connaît. C'est vrai qu'une des forces de la HEH, et pas que de la section LDT, c'est justement de toujours faire en sorte de mettre l'étudiant au centre de nos priorités.
Et puis, grosse priorité aussi, je pense, c'est un cursus qui donc vient d'être mis sur pied, mais qui va permettre aux étudiants d'acquérir de l'expérience à l'étranger. C'est une volonté de votre part.
Oui, on aimerait que les étudiants ne se cantonnent pas à faire des stages en Belgique, même s'il y a une très grosse demande pour faire des stages ici. On voudrait qu'ils puissent voyager et notamment on fait partie du MBNet, c'est le réseau européen des bioinformaticiens. Ce réseau, c'est plusieurs pays européens, mais c'est élargi à des pays de l'Amérique du Sud. Et donc de là, nos étudiants sont sollicités pour aller faire des stages à l'étranger. On a également des relations avec le Canada, où il y a une demande aussi pour que nos étudiants partent chercher des compétences en plus.
Eh bien, on peut dire que tu auras plus qu'attisé notre curiosité, Aline. Un domaine d'avenir, des possibilités infinies. On imagine que tout cela devrait créer des vocations. Merci Aline, merci Danae.
Oui, on se retrouve très vite pour le prochain épisode de SciTech.